Otariège. Otariège, du swing, des blues notes et du rythme, sur Radio Transparence, bien sûr, avec Bruno Blueboy et Paul Sud. Salut. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Paul.
Salut Bruno.
Voilà. Eh bien voilà, aujourd'hui c'est le 26 mars et hier c'était la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. À cette occasion, eh bien nous allons ouvrir une nouvelle séance spéciale qui fait suite à une première émission diffusée il y a quelques semaines. Cette émission était consacrée à un ouvrage, Blues in the Mississippi Night, Blues dans la nuit du Mississippi, édité par un éditeur ariégeois, les éditions du Bout de la Ville. Ce livre est la transcription en anglais et en français d'un entretien réalisé par un chercheur, Alan Lomax, qui a enregistré en 1947 une soirée au cours de laquelle trois bluesmen de légende, Big Bill Bronzy, Johnny Sonny Boy Williamson et Memphis Slim, ont répondu à la question « D'où vient le blues ?» Voilà. Trois comédiens ariégeois ont interprété ces trois artistes de blues en français dans le texte, naturellement.
Oui, il s'agissait d'Olivier, Serge et Alain de la Lof Company. Et c'est l'occasion aussi de remercier à nouveau Floréal et Manu Baudès des éditions du Bout de la Ville. Et cette émission, cette première émission, vous pouvez la retrouver en ligne sur le site de Radio Transparence et moi sur mon blog latordumemanque.info.
Alors, il nous a semblé, à mon ami Paul Sud et moi-même, qu'une deuxième séance s'imposait pour apporter les compléments et les explications nécessaires aux multiples informations contenues dans la première, qui regorge d'anecdotes, de noms, de personnages, de faits, de chants, de légendes aussi, qui méritent qu'on s'y attarde un peu.
Et moi, j'avoue que j'étais très novice quand j'ai lu pour la première fois ce livre, là, en 2023, et que grâce à toi et à cette lecture, j'ai mieux compris certains éléments qui étaient implicites dans le texte.
Pour rafraîchir la mémoire de celles et ceux qui ont eu la chance d'écouter la première émission et pour éclairer les autres, voici quelques extraits de la première émission.
Some people say that the blues,
Big Bill Bronzy.
Car want to see a calf, but I don't say it like that. I said it's a man that's got a companion and she turned him down.
Il y a des gens qui disent que le blues c'est comme une vache qui veut revoir son veau, mais moi je dis pas ça. Je dis qu'un homme qui a une compagne et qu'elle le plaque, c'est des choses qui arrivent. Et moi c'est le genre de choses qui me fout le blues. Mais quand je veux voir ma chérie, que j'en ai méchamment envie, mais qu'il y a un os et que je la trouve nulle part, là, ça me colle le blues. Qu'est-ce que t'en dis? T'as quelque chose à dire là-dessus? Ce qui fait qu'on a le blues?
Ben je vais te dire, ça me tracasse rien que d'y penser.
Sonny Boy Williamson.
J'avais une jolie petite gosse, tu vois, elle s'appelait Estelle. On a été à l'école ensemble, on a grandi ensemble et tout, tu vois. Autrement dit, je voulais être son amoureux. Et j'ai demandé à sa mère, là-dessus, elle m'a jeté. Et ça m'a fait chanter le blues, tu vois. Je pouvais pas l'avoir, alors je me suis dit... C'est ce qui m'a donné l'idée de Little School Girl. Parce que tu vois, on était ensemble à l'école, et bon, voilà, ses parents trouvaient que je n'étais pas assez bien pour elle et que je la rendais pas heureuse et tout. Du coup, ils m'ont dit non. Je me suis posé pour réfléchir, tu vois, et il m'est venu une chanson. Je me suis mis à boire, et puis je me suis mis à chanter. C'est comme ça que ça se passe.
Et tu buvais quoi?
Ben, tu sais, à l'époque, là-bas, dans les collines, on n'avait pas de bon whisky comme ça. On buvait ce qu'on pouvait. Je buvais de ce whisky blanc, tu sais, celui qu'on fait avec du vrai maïs.
Ouais, je vois très bien.
Et ça m'a foutu le cafard, et je m'y suis mis.
Et toi, alors, qu'est-ce que t'en dis?
Ah, quand j'ai des ennuis...
Memphis Slim.
Il y a que le blues qui peut m'aider. Je veux dire, il y a que ça qui peut plus ou moins me tirer d'affaire. Si j'ai de gros ennuis, genre loyer impayé et tout ça, il n'y a que le blues qui arrive à me consoler.
Bon, mais là où t'avais pas de loyer à payer...
Big Bill Bronzy.
Comme à la plantation.
Ben, j'avais quand même des soucis.
Ah, tu m'étonnes.
Je veux dire, comme des histoires de femmes et tout ça. Le blues, c'est la seule solution possible. Tu vois.
Moi, ce que j'en pense du blues, c'est que c'est pas parti du Nord. De Chicago, de New York, de Pennsylvanie ou quoi. C'est c'est parti ni de l'Est ni du Nord. Pour moi, ça a commencé dans le Sud.
Mais le blues, ça remonte à l'esclavage.
Ouais, c'est ça. Les pauvres gens à l'époque, ils devaient payer tout en bloc. Le loyer, la bouffe et tout le reste, il n'y avait pas de détails. Du coup, ils savaient rien de rien sur le loyer et tout ça en ce temps-là.
Mais t'es d'accord que le blues, ça aide à s'en sortir?
Ouais, à faire sortir ce qu'on ressent, à réussir à l'exprimer.
On se sent mieux avec, quand on a été abandonné par sa femme, quand on est seul ou quelque chose comme ça.
Ouais, mais pourquoi c'est du Sud que c'est parti?
Ouais, d'accord, mais si tu réfléchis bien, ça t'aide. N'importe qui, ça l'aide à dire ce qu'il ressent.
Ouais, à exprimer ses sentiments.
Voilà, ouais, mais l'important, c'est pourquoi le blues? Pourquoi un gars se chope le blues, non? Pourquoi il a le blues?
D'après moi, le blues et les spirituals, c'est un peu du même ordre. Je veux dire, quand on a des problèmes, on va à l'église, ouais, on chante ça, et ça vrai, va mieux. Ouais. Je veux dire, on trouve un peu de consolation.
Dans cet extrait de la première émission Blues in the Mississippi Night, vous venez d'entendre Olivier Chombard, Alain Durécus, Serge Lévy-Lozata de la Love Company, qui interprétaient successivement Big Bill Brunzi, Memphis Slim et Sonny Boy Williamson. On retrouve Bruno.
On va commencer par essayer de répondre à notre façon à cette grande question posée par Alan Lomax. Qu'est-ce que le blues? D'où vient le blues?
C'est vrai que si tu veux connaître un peuple, écoute sa musique. Et c'est vrai qu'on se pose des questions d'ethnologie sur ces musiques telles qu'elles existaient, notamment leur origine.
Alors, l'origine du blues, elle remonte à l'esclavage. Comment imaginer le traumatisme subi par ces millions de personnes arrachées à leur pays pour être livrées comme esclaves dans un pays lointain où tout leur était étranger? Pour se le représenter, on peut essayer d'imaginer ce que ça donnerait d'être enlevé par des martiens pour être amené comme esclave sur la planète Mars. En 400 ans, plus de 15 millions d'hommes et de femmes ont été victimes de la traite, à quoi s'ajoute un nombre de morts considérable lors des traversées, en raison de la malnutrition, des coups de fouet, de la dysenterie, etc. Les estimations quantitatives varient selon les auteurs. L'un d'eux, Henri Quesneuil, est allé jusqu'à porter l'estimation à 80 millions de personnes au total.
Et en n'oubliant pas de cette dimension raciste très importante, puisqu'ils étaient considérés comme des sous-hommes, ou plutôt du bétail qui se reproduisait. C'était un peu comme ça qu'étaient considérés aussi les Amérindiens qui ont été massacrés par les Blancs venus d'Europe.
En effet. Et le blues, eh bien, c'est le résultat de cet immense choc culturel entre deux civilisations, l'européenne et l'africaine. Le blues est l'expression culturelle du peuple noir. Cette expression emprunte aux deux civilisations. La langue est européenne, c'est l'anglais. Le contenu est dérivé de la tradition orale, des psalmodies, des griots, des histoires qu'on raconte aux enfants, des terreurs nocturnes, des grands événements qui ont frappé l'imagination du peuple noir, de la terrible souffrance endurée pendant des siècles. Le blues est un cri qui sort des tripes et ce qui compte plus que tout, plus que la mélodie, plus que le contenu, plus que le rythme, c'est le feeling, la charge émotionnelle qui se dégage d'un morceau.
Ouais, moi j'avais été assez frappé par les work songs où on trouve c'est un rythme, le rythme de la pioche qui est scandé avec un rythme binaire là dans les champs de travail où les noirs étaient considérés comme du bétail et ce bétail était plus productif s'il chantait, et c'est pour ça qu'on les autorisait à chanter mais uniquement dans les champs.
Le blues est aussi le produit de la guerre de sécession entre 1860 et 1865. Les Noirs émancipés sont restés dans le Sud après la guerre. Sauf que les Blancs vaincus ne sont pas devenus antiracistes pour autant, bien au contraire. Le sentiment qui prédomine, c'est la vengeance. On retrouve d'ailleurs un sentiment analogue lors de la première victoire de Trump en 2016 après la présidence Obama. Et que sont devenus les Noirs? Comme l'explique Gérard Herzhaft, l'auteur du Que sais-je sur le blues, je le cite, « Une large majorité des anciens esclaves noirs furent employés comme métayers, avec le droit de cultiver un petit lopin de terre en échange de droits souvent exorbitants. 80 à 90% de la récolte due aux propriétaires et un endettement à vie et pour ses héritiers, vis-à-vis du General Store le plus proche, ce qui voulait dire distant de plusieurs miles, voire de plusieurs dizaines de miles, le plus souvent aussi possédé par le même propriétaire que la terre. » Fin de citation. L'esclavage avait été remplacé par la servitude de la dette. Le blues s'est constitué au tournant du XXe siècle, en agrégeant de multiples formes musicales préexistantes. Ce sont d'abord les spirituals, les Noirs qui rêvaient d'émancipation, ne pouvait manquer de faire le parallèle avec la situation des Hébreux fuyant la domination égyptienne vers la terre promise. Ils se sont emparés de la musique religieuse pour exprimer leur désir d'une autre vie. Ce sont aussi les hollers, les cris lancés à tue-tête par les ouvriers agricoles sur les champs de coton. Il y avait aussi les champs de riz, de canne à sucre et plus tard les constructions de digues. Ce sont des cris solitaires, du moins au départ, car ils pouvaient aussi être repris par des camarades de travail. Et ça, on peut l'opposer aux work songs, les chants de travail collectifs sur les chantiers, les constructions de voies ferrées, les digues. Les work songs étaient couramment utilisés par les chain gangs, des groupes de prisonniers enchaînés avec un boulet au pied, astreints à des travaux harassants du lever du jour à la tombée de la nuit. Big Bill Bronzy et Memphis Slim en parlent au cours de la soirée. Memphis Slim évoque la ferme pénitentiaire de Cummins. Ferme pénitentiaire et chain gangs étaient des thèmes courants dans le blues avant-guerre, car il n'était pas rare à l'époque pour un Afro-Américain de se retrouver incarcéré dans ce genre d'endroit pour une broutille, voire même pour rien. Si les flics intervenaient après une bagarre dans un bar et qu'ils trouvaient des noirs sur place, ils ne cherchaient pas à comprendre, ils avaient leur fautif. Celle de Cummins, située en Arkansas, a fait l'objet d'une chanson de Calvin Levy, Cummins Prison Farm. Deux autres fermes pénitentiaires sont très connues grâce au blues, Parchman dans le Mississippi et Angola en Louisiane.
Et ce qu'on entend là, c'est la chanson de Calvin Levy, Cummins Prison Farm, c'est ça?
Exactement. C'est au pénitencier d'Angola qu'Alan Lomax et son père John ont trouvé en juillet 1933 le chanteur-guitariste Led Belly, incarcéré en 1930. Ce dernier purgeait une peine de 10 ans de prison. Les Lomax l'ont fait enregistrer pour la bibliothèque du Congrès et ont négocié sa remise en liberté avec le gouverneur. Led Belly a été libéré en août 1934. Il a été employé un temps comme chauffeur des Lomax, puis il est devenu une icône du folk blues à New York. On écoute un morceau de Led Belly enregistré par les Lomax pour la librairie du Congrès en 1935. Il s'agit de Midnight Special, un des morceaux les plus connus de Led Belly, qui en a enregistré au moins 6 versions. C'est une chanson traditionnelle, interprétée aussi bien par des Noirs, comme Sam Collins, que par des Blancs, comme Dave Pistol Pete Cottrell, à laquelle Led Belly a ajouté sa patte sous la forme de strophes qui évoquent une évasion de la prison de Houston en 1923. Le Midnight Special est un train qui éclaire à son passage la nuit la prison de Houston. La lumière du train symbolise la liberté pour les prisonniers.
better not squabble, and you better not fight. Best off will rescue you, and then soon take you down. But the judge will sentence you, and the sugar land bound. Let the midnight special shine a light on you. Let the midnight special shine a hell of a light on me. Well, jumping in the beauty, she was a mighty fine girl. Well, Judy Bill jumping, it is a whole round war, but she brought it in the morning, and just a while for a day. And she brought me to news, that my wife was dead, that started me to grieving, who kind of hollering and crying. Then I begin to worry, but I've been a long time, that the midnight special, shine your light on me. Let the midnight special shine a hell of a light on me. Yeah, the two white horses coming side by side. Mighty head behind loyal, can't let me ride. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a hell of a light on me.
Cette chanson est extraite du CD document Led Belly, The Remaining Titles, Library of Congress Recordings de 1935.
Magnifique, ça fait penser à Midnight Express aussi, le film.
Les premiers blues sont apparus dans des bals, des fêtes du samedi soir, des veillées. À l'instar des chansons de gestes au Moyen-Âge en Europe, le chanteur évoquait des faits divers, des événements comme les inondations ou les années de mauvaises récoltes, des personnalités marquantes. La tradition orale africaine se perpétuait et se transformait en même temps. Une véritable mythologie est née avec ses héros. Ainsi, Memphis Slim parle d'un certain Mississippi qui aurait été flingué par un homme nommé Albert pour une histoire de femme. Cette histoire semble reliée à deux faits divers qui ont donné lieu à de multiples blues et d'ailleurs aussi de morceaux de country. Le premier est l'assassinat de Willie Lyons, abattu à Saint-Louis dans le Missouri, dans la nuit de Noël 1895 par Stagger Lee. Memphis Slim chante d'ailleurs une chanson, Stagger Lee, qui traite de ce fait divers. Le second, c'est l'assassinat d'Alan Britt, surnommé Albert, par sa petite amie Frankie, parce qu'Albert l'avait trompé avec une danseuse. Cela s'est passé également à Saint-Louis le 15 octobre 1899. Ce second fait divers a donné lieu à de nombreux blues et morceaux country sous le titre Frankie and Albert ou bien Frankie and Johnny. Big Bill Bronzy et Memphis Slim, notamment, ont interprété Frankie and Johnny. La plus connue de toutes ces ballades sur des figures marquantes ou bien des héros afro-américains est John Henry, l'homme qui forait la montagne avec son marteau plus vite que les machines à vapeur.
But a man, before I let your steel drill beat me down, boy, I will die with that hammer in my hand. Yes, I'll die with that hammer in my hand.
Alan Lomax a collecté plus de 140 versets différents.
On en entend une version en ce moment.
Exact. Pour ceux qui s'intéressent à cet aspect des débuts du blues, on peut signaler l'excellent album CD Black Heroes, From Stagger Lee to Joe Louis, édité par Saga Blues.
Mais la question c'est comment se transmettaient ces chansons, ces blues je sais pas, ils étaient publiés, il y avait des partitions?
Alors, c'était la tradition orale, tout simplement. Et la tradition orale, on vient de le voir, effectue des mélanges entre les histoires et les personnages. Le cas de Mr. Charlie, évoqué par Memphis Slim, est caractéristique et un peu étonnant aussi. Memphis Slim parle d'un Mr. Charlie, Charlie Hulin, présenté sous un jour sympathique, qui flingue un autre Mr. Charlie, Charlie Holland, qui maltraitait les Noirs. Deux Mr. Charlie, avec des noms extrêmement proche, il y a manifestement du mélange. dans l'affaire. Jean-Paul Levet, dans son ouvrage « Talking That Talk, le langage du blues et du jazz », paru chez Hatier en 1992 et formel, je le cite, « Mr. Charlie », terme péjoratif pour désigner un blanc, un supérieur hiérarchique, social. Fin de citation. D'ailleurs, Mr. Charlie, plus tard, c'est aussi devenu le surnom dont on affublait les Noirs qui se montraient arrogants ou se comportaient comme les Blancs.
Oui, c'est vrai, moi ça m'a particulièrement surpris ce double langage de paroles avec notamment la référence à la mule.
Oui, la fameuse mule. Alors, j'ai cité Jean-Paul Levet. Son ouvrage est une espèce de dictionnaire pour traduire le langage spécifique des Noirs, qui était au départ bien autre chose qu'un argot. Ça l'est devenu par la suite, après la guerre. Ce langage est un héritage du Black Code, le code noir, qui interdisait aux Noirs de parler leur langage d'origine, c'est-à-dire l'une des langues africaines, comme le Wolof ou le Bambara. Les Noirs se sont forgés une langue en utilisant des mots à double sens, des métaphores particulières ou des surnoms, tels que Mr. Charlie. Petit à petit, ces mots sont rentrés dans le langage de la rue avec leur nouveau sens et tout le monde se les est approprié. Le Black Code égrenait une longue liste d'interdictions, dont celle de jouer du tambour ou du fifre, deux instruments africains très répandus, parce que ces instruments auraient pu servir à propager des révoltes d'esclaves.
Oui, un peu comme les signaux de fumée des Indiens. Mais ça, c'est les débuts, mais après, comment ils se sont professionnalisés ?
Alors, les premiers musiciens professionnels de blues sont apparus au début du XXe siècle. C'était des autodidactes qui se produisaient d'abord dans les plantations, des bals, des pique-niques, des soirées, puis dans les bars. Ils étaient souvent aveugles. C'était ceux qui ne pouvaient pas récolter le coton, qui ne pouvaient pas travailler dans les champs. D'où le surnom de Blind, l'aveugle, dont on les affublait. Les plus connus sont Blind Lemon Jefferson au Texas, Blind Blake en Floride, Blind Willie McTell en Géorgie, Blind Boy Fuller en Caroline du Nord, pour s'en tenir aux bluesmen purs. Oui, je parle pas des guitares évangélistes qui étaient souvent aussi aveugles, comme Blind Willie Johnson ou Blind Gary Davis, mais qui, eux, jouaient de la musique religieuse.
Mais tu l'évoques, les lieux où ils jouaient de la musique, donc les églises, tout ça, mais après, ils jouaient une histoire de bar, j'ai bien suivi dans la conversation des trois.
Qui dit blues dit souvent qu'il y a des histoires de bar, en effet. Les Afro-Américains fréquentaient deux sortes de bars. Big Bill Bronzy et Memphis Slim parlent de honky-tonk et de barrel houses. Ces deux mots désignent la même chose. J'utilise ici le glossaire de Jean-Claude Arnaudon dans son dictionnaire du blues, paru chez Philippe Aki en 77. Je le cite. Barrel house, cabaret de bas étage où la clientèle consommait de la bière tirée directement des tonneaux placés contre l'un des murs. Souvent, des pianistes se produisaient dans ces établissements, jouant une musique composée de boogie-woogie, de rock times et de blues. Il y a un synonyme, c'est les honky-tonk. Fin de citation. Après-guerre, les honky-tonk ont surtout été fréquentés par des Blancs. Les Noirs se rendaient plutôt dans des juke joints. Je recite Arnaudon. Juke joints, locaux situés à l'intersection des routes nationales ou à proximité de gares de chemin de fer. Ils sont divisés en deux salles. L'une possède un bar, l'autre, destinée à la danse, est munie d'une estrade où se produisent les artistes. Au cours des années 50, les jukebox prirent la place des bluesmen dans ces établissements. Fin de citation.
D'accord. Et tu m'avais expliqué qu'il y avait des courants dans le blues, enfin des genres, des versions différentes, c'est ça ?
C'est vrai. Dès le début du blues, on parle des premières années du XXe siècle, dès ce moment-là, se sont forgés des styles régionaux caractéristiques. Le blues du Delta, dans le Mississippi, le blues texan, le Piedmont blues sur la côte est, le blues de la Louisiane, avec la particularité de la Nouvelle-Orléans, la grande ville. Et dès ces années-là, se place un phénomène qui va changer beaucoup de choses. L'exode rural des Noirs, du sud vers le nord. Cette immigration noire a touché plusieurs millions de personnes, avec un premier pic dans les années 1915-1920 et un second après la guerre. Vu du sud, la ville de Chicago apparaissait aux Noirs comme un Eldorado.
Baby, don't you want to go?
La célèbre chanson de Robert Johnson, Sweet Home Chicago, en témoigne, celle qu'on écoute en ce moment. S'il est vrai que les Noirs pouvaient souvent y trouver un emploi dans l'industrie et n'avaient pas à y redouter le lynchage, comme dans le Sud, la plupart n'y trouvaient que la misère, l'entassement dans des ghettos insalubres et une discrimination pernicieuse. 110 000 personnes sont venues à Chicago entre 1916 et 1918.
Ouais, moi j'ai appris qu'il y avait aussi des chansons, qu'à l'intérieur des chansons, il y avait des codes qui contenaient des routes, des indications pour aller du Sud vers le Nord.
Il y avait tout ça, en effet. Ces mouvements migratoires des Afro-Américains, du Sud vers le Nord donc, ont été soutenus par le Chicago Defender, le journal dont parle Big Bill Bronzy et Memphis Lim. Ce journal, fondé en 1905, était le plus grand et le plus influent hebdomadaire afro-américain. Il n'utilisait pas les mots « noir » et « nègre », mais parlait d'hommes et de femmes, de race. De même, les disques réalisés par des artistes afro-américains étaient classés comme « race records », les disques raciaux. Le terme de « rhythm and blues », simplifié par la suite en R&B, a remplacé l'expression « race records » en juin 1949. Ainsi, dans son numéro du 16 octobre 1920, le Chicago Defender identifiait Mamie Smith, la première chanteuse de blues à avoir été enregistrée. Je mets des guillemets, parce que c'est le Chicago Defender qui parle, comme notre artiste racial.
Et on entend sa voix en ce moment.
Le Chicago Defender était distribué clandestinement dans le Sud. Les Blancs refusaient de le distribuer. Le Ku Klux Klan menaçait les lecteurs et tentait de confisquer les numéros. Le journal circulait de main en main, à l'église, au salon de coiffure, etc. Le Chicago Defender abordait des sujets comme les émeutes raciales, comme celle de 1919, les campagnes contre le lynchage, les sujets de la vie quotidienne des Afro-Américains. L'arrivée des immigrants afro-américains a fourni un nouveau public pour le blues dans les villes. C'est ainsi que des formes urbaines de blues se sont développées dans des grandes villes comme Memphis, Saint-Louis et bien sûr Chicago. Nos trois compères de 1947 étaient de Chicago. Big Bill Bronzy a été la première grande star locale du blues.
Ouais, ça serait intéressant maintenant de revenir sur ces trois artistes, un petit peu de bio et surtout d'extraits musicaux.
Eh bien, on va en voir un peu. Alors, Big Bill Bronzy, William Lee Conley Bronzy, c'est son vrai nom complet. Ben, lui, il est né dans le Mississippi en 1898. Il a appris la guitare à l'âge de 11 ans et il animait déjà des pique-niques. Il a travaillé dans des mines. Il a fait partie du contingent américain qui a fait la guerre en France en 1917. C'est à son retour de l'armée en 1920 qu'il s'est établi à Chicago. Il a bossé chez Pullman, une entreprise de construction de voitures de chemin de fer. Il a été aussi cuisinier, fondeur, gardien. Dès son premier 78 tours, en 1927, avec Big Bill Blues, qu'on entend en ce moment, son jeu de guitare exceptionnel lui a permis de remporter un grand succès et il est devenu extrêmement populaire à Chicago, auprès du public afro-américain évidemment. Il a enregistré avant-guerre plus de 300 faces en vedette, et autant comme accompagnateur d'autres bluesmen, comme John Lee Sonnyboy Williamson, mais aussi Washboard Sam, Jazz Gilloum, etc.
Lord, my hair is a-rising, my flesh begin to crow. My hair's a-rising, my flesh begin to crow.
Big Bill Bronzy a joué un rôle essentiel dans le développement du blues urbain. Il a été embauché par la grande maison RCA Victor qui sortait les disques de blues sur l'un de ses labels, Bluebird. Avec le directeur de la compagnie, un certain Lester Melrose, il a imposé peu à peu une musique dansante avec de petits ensembles constitués d'une guitare, d'un piano, d'une contrebasse et d'une batterie. C'est ce qu'on a appelé le Bluebird Beat. C'était les prémices de ce qu'on a appelé le blues de Chicago après-guerre, le style qui a dominé le genre, on pourrait même dire qui a écrasé tous les autres styles de blues. Dans les années 30-40, il régnait en maître, je parle de Big Bill Bronzy, sur les clubs de la ville, pour reprendre les mots de Gérard Herzhaft. Du fait que Melrose passait par lui pour choisir les artistes et les œuvres, son influence était énorme. Il a aidé de nombreux jeunes artistes, il les a introduits dans les clubs et auprès des producteurs. Des vedettes comme Washboard Sam, Jazz Gillum, John Lee Sonny Boy Williamson, Muddy Waters lui doivent beaucoup. Après-guerre, la percée des jeunes du blues de Chicago, qui jouaient un blues électrique, explosif, a quelque peu ringardisé les vieux comme lui. Il a eu alors une idée de génie. À partir de 1951, il a fait des tournées en Europe où le blues était inconnu et où il a trouvé un nouveau public. La presse spécialisée de l'époque, qui était celle du jazz et qui ne considérait le blues que comme un ingrédient primitif du jazz ayant disparu, l'a présenté comme le dernier chanteur de blues vivant. Certains, comme Herzhaft, ont pu reprocher à Big Bill de ne pas avoir démenti, alors même que le blues électrique de Muddy Waters, Jimmy Reed ou Johnny Hooker faisait fureur dans les clubs de Chicago. C'est oublier la représentation du monde d'un Afro-Américain né au XIXe siècle. Si les Blancs te mettent en valeur, tu ne vas pas les contredire. Je vous propose d'écouter un morceau de 1951, gravé chez Mercury, qui a eu un certain retentissement en Europe dans le milieu des amateurs folk, des amateurs de gauche, car Big Bill Bronzy dénonce explicitement la ségrégation qui sévit aux États-Unis. Le morceau s'intitule Get Back, on le trouve aussi sous le titre de Black, Brown and White. Big Bill est accompagné à la basse par Ransom Nowling. Voici ce que donne un des couplets les plus significatifs. Je suis allé à un bureau de placement, j'ai pris un numéro et une place dans la file. Ils ont appelé tous les numéros, mais ils n'ont jamais appelé le mien. Ils disent, si t'es blanc, c'est parfait. Si t'es brun, ça passe encore. Mais comme t'es noir, mon gars, frangin, allez, tire-toi, tire-toi, tire-toi.
This little song that I'm singing about, people you all know is true. If you black and gotta work for a living now, this is what they will say to you. They say, if you's white, she's all right. If you's brown, stick around. But if you's black, oh brother, get back, get back, get back. I was in a place one night, they was all having fun. They was all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said, if you's white, you's all right. If you's brown, you can stick around. But as you's black, brother, get back, get back, get back. I went to an employment office, I got a number and I got in line. They called everybody's number, but they never did call mine. They said, if you's white, you's all right. If you's brown, you can stick around. But as you's black, brother, get back, get back, get back. Me and a man was working side by side. Now this is what it meant. They was paying him a dollar an hour, and they was paying me 50 cents. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, you could stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I opened three victories with my plow and hoe. Now I want you to tell me, brother, what you gonna do about the old Jim Crow. Now, if you's white, you's all right. If you's brown, stick around. But if you black, oh brother,
Goodbye, goodbye, goodbye.
J'ai tiré ce morceau du CD Big Bill Bronzy, Rockin' in Chicago, 1949-53, édité par Revola. Il faut noter qu'une telle dénonciation n'existe pratiquement pas dans le blues authentique, hormis quelques cas rares comme Tommy McLennan ou J.B. Lenoir. La contestation d'un système dominé par les Blancs, la revendication d'égalité, la fierté d'être noir, tout cela apparaîtra avec la soul music dans les années 60. D'où d'ailleurs le déclin du blues dans ces années-là. Big Bill Bronzy est décédé en 1958. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été un virtuose de la guitare, qu'il a joué un rôle majeur avant-guerre dans l'évolution du blues vers la modernité et qu'il a été un extraordinaire ambassadeur du blues après-guerre.
Tu nous parles maintenant du second qui a un parcours aussi étonnant avec deux artistes sous le même nom. C'est ça que tu m'as expliqué.
Eh oui! Du 2 en 1, ça existe dans le blues aussi. Après le guitariste, voici en effet l'harmoniciste Sonny Boy Williamson. Pour parler de lui, je vais commencer par une précision, car en effet, tu l'as dit, deux harmonicistes de blues ont porté ce nom. Et le plus connu des deux, bah oui, pas de chance, c'est pas celui qui a participé à la soirée de 1947 organisée par Alan Lomax. C'est pourtant lui, le vrai, le premier, le seul en vérité, Sonny Boy Williamson. Le second, qui s'appelait en réalité Rice Miller, jouait à la même époque. Le problème, c'est qu'il a voulu profiter de la popularité du premier en adoptant son nom comme pseudo. L'affaire s'est corsée parce que, lorsqu'il a été interrogé pour savoir qui était le vrai Sonny Boy Williamson, il a juré, ses grands dieux, que c'était lui, qu'il était l'original, l'authentique Sonny Boy Williamson. Si cet usurpateur avait été un artiste mineur, l'affaire aurait été vite classée. Mais le second Sonny Boy s'est révélé par la suite comme l'une des plus grandes figures de l'histoire du blues. Je peux citer par exemple Jean-Claude Arnaudon qui écrit dans son dictionnaire du blues que Sonny Boy Williamson Rice Miller était, je le cite, « le plus grand, sans doute, de tous les harmonicistes de blues ». Fin de citation. Cette affaire a causé pas mal de tracas aux chercheurs avant qu'ils ne distinguent le vrai du faux et trouvent le véritable patronyme de Rice Miller. Voilà pourquoi on parle de Johnny Sonny Boy Williamson et de Sonny Boy Williamson Rice Miller ou Sonny Boy Williamson numéro 2 pour les distinguer. Et quoi qu'il en soit, le véritable Sonny Boy Williamson, Johnny, reste un harmoniciste de génie, l'un des plus grands créateurs que le blues ait connu. Johnny Williamson est né dans le Tennessee en 1914. Il a eu l'occasion de jouer dans les années 20 avec l'équipe de Brownsville, c'est-à-dire Sleepy John Est, Hammy Nixon et Young Creature. C'est auprès du grand harmoniciste Hammy Nixon qu'il a parfait sa technique instrumentale. Young Creature, le mandoliniste, est devenu le partenaire régulier de Sonny Boy Williamson jusqu'en 1938. Ils se sont établis d'abord à Saint-Louis, puis à Chicago en 1934. Au cours de la soirée de 1947, Sonny Boy évoque un de ses morceaux, Little Schoolgirl. Il s'agit du tout premier morceau que lui a fait enregistrer Lester Melrose pour le label Bluebird sous le titre Good Morning Schoolgirl. Il est intéressant de noter que Sonny Boy dit Little Schoolgirl. C'est dans la première phrase de la chanson et c'est sous le titre de Good Morning Little School Girl, qu'elle a été connue par la suite. L'enregistrement a eu lieu le 5 mai 1937, le single 78 tours est sorti peu après, et le morceau a connu immédiatement un grand succès. Comme l'explique Sonny Boy dans la conversation, l'histoire est celle d'un écolier amoureux d'une écolière et qui se fait jeter, ce qui lui a fichu le blues. Je vous propose d'écouter ce chef-d'œuvre.
Mother and your father, that Sonny Boy's a little school boy. I woke up this morning, Lord, and I couldn't make me know.
Lord, I couldn't make it on time. Why did I didn't have no blues, woman, but I was all messed up in line. Now you be my baby, come on and be my baby, I'll buy you a diamond, I'll buy you a diamond. Well, if you don't be my little woman, and I won't buy you a doggone thing. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna fly all over this land. I'm gonna fly all over this land. Oh. Don't find the woman that I'm loving, and I ain't going to let my airplane down. I don't know Harlem, I don't know Harlem, baby, wasn't this woman, baby, wasn't this woman. Well, then I don't want to never hurt your feelings or either get mad.
Qui est crédité sur ce morceau ?
Eh bien, Johnny Sonnyboy Williamson est au chant et à l'harmonica, et il était accompagné à la guitare par deux grands bluesmen, Big Joe Williams et Robert Lee McCoy, qui s'est fait connaître sous le nom de Robert Nighthawk. J'ai tiré ce morceau du CD Document, intitulé Sonnyboy Williamson, Complete Recorded Works in Chronological Order, volume 1, 5 mai 1937 au 17 juin 1938. Good Morning Little Schoolgirl est devenu un immense standard du blues et du rock. Parmi ceux qui ont interprété ce titre, on peut citer des bluesmen, bien sûr, comme Johnny Hooker, Lightning Hopkins, Muddy Waters, Junior Wells ou encore Mississippi Fred McDowell, mais aussi des rockers tels que les Yardbirds, Grateful Dead, Chuck Berry, Ten Years After, Hot Tudor, Van Morrison et d'autres. Entre 1937 et 1947, Sonnyboy Williamson a enregistré plus de 120 titres. Gérard Herzat va jusqu'à écrire qu'il aurait, à la fin de sa vie, quasiment pris la place de Big Bill Bronzy comme charnière, comme personnage pivot incontournable de la scène du blues de Chicago. Sonnyboy a continué à se produire et à enregistrer jusqu'à son décès. Sur la fin, il a sorti des disques chez Columbia, notamment des morceaux de toute beauté. Où il accompagne à l'harmonica Big Joe Williams à la guitare, avec Ransom Nowling à la basse et Judge Riley à la batterie, on en entend un morceau. Juste avant la fin de sa vie, Johnny Sonnyboy Williamson avait appris qu'un usurpateur se faisait passer pour lui dans le sud, le fameux Rice Miller dont j'ai parlé. Il avait le projet de descendre dans le sud pour lui faire la peau. Il n'en a pas eu le temps. Il est mort le 1er juin 1948, victime d'une agression alors qu'il regagnait son domicile. Johnny Sonnyboy Williamson est un bluesman de Chicago, un génie de l'harmonica, qui a contribué à rendre cet instrument incontournable dans le blues et à poser les bases de la formule du blues de Chicago qui s'est imposée après la guerre comme la formule dominante du blues moderne en alternant les parties vocales et les phrases d'harmonica.
Et là, enfin, le dernier, mais pas le moindre, the last but not the least, cette fois-ci, c'est au piano.
Eh oui, tu as raison, c'est bien le pianiste Memphis Slim, le troisième compère de la soirée de 1947. Alors lui, il n'a pas joué un rôle aussi important dans le blues que les deux premiers, mais c'était tout de même un brillant pianiste de Chicago, excellent dans les boogie-woogie et doté d'un humour caustique qui faisait mouche. Memphis Slim, de son vrai nom John Lane Chatman, est né en 1915 à Memphis, dans le Tennessee, soit comme son surnom l'indique. C'est son père, Peter Chatman, tenancier de Duke Jones, qui lui a appris le piano et il a pris son nom. En 1931, il a rencontré à Memphis le pianiste Roosevelt Sykes, qui est devenu son mentor. Il s'est établi à Chicago en 1937 et il a commencé à enregistrer en 1940 pour les marques OK et Bluebird. Il a connu le succès chez Bluebird dès 1940. Dès lors, il n'a plus cessé d'enregistrer. De 1941 à 1943, il a été le pianiste régulier de Big Bill Bronzy. Je vous propose d'écouter son morceau fétiche, connu sous le titre « Every Day I Have the Blues », enregistré à l'origine sous le titre de « Nobody Loves Me » le 10 octobre 1947 chez Miracle, une maison de disques indépendante de Chicago fondée l'année précédente. C'est une reprise d'un morceau de 1935 des frères Sparks et Henry Townsend.
Et que dit la chanson ?
Ah ! Bonne question. Chaque jour, j'ai le blues. Quand tu me vois m'inquiéter, chérie, c'est toi que je déteste perdre. Personne ne m'aime, personne ne semble s'en soucier.
Magnifique.
On trouve ce morceau, par exemple, sur le coffret JSP de 4 CD intitulé Memphis Slim, Roosevelt Sykes, Eddie Boyd, Rockin' This House, Chicago Blues Piano, 1946-1953. Every Day I Have the Blues est devenu un immense standard du blues, avec des reprises en jazz, en rock, en pop, etc., notamment après sa reprise par Lowell Fulson en 1950. Memphis Slim a eu une longue carrière, bien remplie. Il a su s'adapter à toutes les modes, ce qui lui a permis de durer. Barrel House avant-guerre avec Roosevelt Sykes, blues pur typique de Chicago avec les artistes Bluebird comme Big Bill Bronzy, rhythm and blues après-guerre et finalement pianiste de boogie-woogie caractérisé par une facture très personnelle. En 1959, Memphis Slim s'est associé à Willie Dixon, joueur de contrebasse, parolier, directeur artistique de la prestigieuse maison Chess, une espèce de pape du blues de Chicago dans les années 50-60. Il a monté avec Willie Dixon un duo piano-contrebasse qui a connu un grand succès auprès du public du blues revival. En 1961, Memphis Slim s'est fixé à Paris et il a joué notamment au cabaret Rive Gauche, les Trois Maillets, jusqu'en 1974. C'est ce qui explique qu'il soit devenu un bluesman assez connu en France. Il a participé à trois tournées de l'American Folk Blues Festival, la toute première en 1962, la seconde en 1963 et en 1972. C'est l'American Folk Blues Festival qui a largement fait connaître le blues en France et en Europe. Memphis Slim est décédé en février 1998.
Moi, j'aimerais bien qu'on revienne, maintenant qu'on a fait le tour des artistes, sur ces situations de construction, de digues, etc., etc.
Oui, car c'est important. Big Bill Bronzy, en effet, évoque des chantiers de construction de digues. Il y en a eu beaucoup dans les années 30. Manfred Miller mentionne dans son chapitre sur le blues de l'ouvrage collectif « Une histoire du jazz » paru chez Fayard que Big Bill a été contraint, je le cite, « de recourir au programme WPA de l'administration Roosevelt ». Alors, WPA comme « Works Progress Administration » et plus tard « Works Projects Administration ». Cette agence gouvernementale a employé plusieurs millions de demandeurs d'emploi sans qualification, dont beaucoup étaient afro-américains. Outre les parcs, les écoles et les routes, beaucoup ont été utilisés pour construire des digues. De nombreux blues traitent de terribles inondations au 19e siècle, début du 20e. On peut citer dans ce registre, par exemple, « Blues in the 90s », de Big Bill Bronzy, High Water Everywhere de Charlie Patton ou encore Backwater Blues de Bessie Smith.
Et parmi ces chansons sur les inondations, je crois qu'il y a aussi des femmes qui ont chanté, c'est ça ?
Ben oui, je venais de citer Bessie Smith, mais c'est vrai, à titre d'exemple, environ 1 millier de personnes ont perdu la vie lors de la crue du Mississippi de 1927 et près d'un demi-million de maisons ont été détruites. Bessie Smith a écrit Backwater Blues en 1927. Il semble qu'elle ait écrit ce blues en référence à la crue de la rivière Cumberland de 1926, l'année précédente, mais c'est devenu un hymne pour après la crue du Mississippi. Il est documenté que les autorités se sont comportées de manière discriminatoire en relogeant rapidement les Blancs sans donner de solution aux Noirs. Il y a eu aussi des meurtres et des lynchages. Tout cela résonne encore de nos jours lorsqu'on voit comment les autorités ont géré les conséquences de l'ouragan Katrina en 2005. Voici ce que raconte Bessie Smith. Quand il a plu 5 jours et que le ciel est devenu sombre comme la nuit, alors des problèmes surviennent dans les basses terres la nuit. Je me suis réveillé ce matin, je ne pouvais même pas sortir de chez moi. Il y a suffisamment de problèmes pour qu'une pauvre fille se demande où aller. Alors ils ont ramé sur un petit bateau sur environ 8 kilomètres pour traverser l'étang.
When it rained 5 days and the skies turned dark as night, then trouble taking place in the lowlands at night. There's enough trouble to make a poor girl wonder where she wanna go. Then they roll a little boat about 5 miles across the pond. Then they roll a little boat about 5 miles across the pond. And they rolled me along. When it's thunder and lightning and the wind began to blow. When it thunders and lightning and the wind began to blow. There's thousands of people ain't got no place to go.
J'ai tiré ce morceau du CD Jazz, 36 Masterpieces of Jazz Music, paru chez Frémo. Big Bill Bronzy et Memphis Slim sont d'accord pour dire que les gens du classique, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu la galère et ont reçu de l'instruction, cela concerne les blancs bien sûr, mais pas que, ça concerne aussi une partie de la bourgeoisie noire naissante. Tous ces gens-là, selon eux, ne connaissent pas le blues. Même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas jouer le blues. En fait, il faut avoir le blues pour chanter le blues. Fin de citation. Cette appréciation est cruciale pour comprendre l'histoire du blues. Il est à noter à cet égard que blues et country n'étaient pas séparés avant-guerre par une démarcation totalement étanche comme c'est le cas aujourd'hui. Sans parler de Led Belly, très connoté folk et non comme bluesman, ce qui n'a pas grand sens à mon avis, des bluesmen aussi purs que par exemple Charlie Patton dans le Delta ou Blind Willie McTell sur la côte Est avaient des morceaux country dans leur répertoire. Et on a pu parler de blues blanc à propos de la musique de Jimmy Rogers et de ses disciples. Jimmy Rogers lui-même avait appris à jouer de la guitare auprès d'un noir. Le blues se distinguait néanmoins par la voix, le rythme, le feeling, l'utilisation d'instruments comme le washboard ou le jug et le traitement des thèmes liés à la vie des Afro-Américains.
Alors est-ce qu'il y a un lien avec des courants plus récents comme le rock'n'roll ou d'autres ?
Il y en a. L'émergence du rock'n'roll en 1953-54 est la conséquence d'un blues joué par des blancs. Le cas typique est celui d'Elvis Presley qui a baigné dans la musique noire dans son adolescence, grand admirateur des bluesmen de Memphis. Son premier succès qui a marqué la naissance du rockabilly, That's Alright, paru le 19 juillet 1954, était la reprise d'un blues d'Arthur Big Boy Crudup. Mais précisément, le traitement du thème par Elvis, la voix, le rythme, le son, en faisait un rockabilly et non plus un blues. Socialement, le rock'n'roll, puis le rock et la pop, ont été portés par un mouvement d'émancipation de la jeunesse blanche et noire, américaine et européenne.
Mais alors, au final, comment est-ce que tu caractérises le blues ?
Le blues, expression culturelle du peuple noir américain, apparaît comme une musique datée du début à la fin du XXe siècle. Le mouvement pour les droits civiques des années 50 a changé la donne. Les années 1967 et 68 ont donné lieu à de sanglantes émeutes dans tous les ghettos. Les droits civiques des Afro-Américains ont été inscrits dans la Constitution. L'état d'esprit des Noirs avait changé. Et au moment où le blues a commencé à être apprécié par les Blancs, les Noirs eux-mêmes se sont détournés du blues pour inventer une nouvelle forme musicale, la soul, dérivée du gospel et de la musique religieuse. Ainsi, la soul de James Brown, comme dans Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, dites-le haut et fort, je suis noir et je suis fier. Eh bien oui, cette soul-là a fait le pendant du blues boom blanc des années 60, porté par des gens comme Alexis Corner, John Mayer, les Yardbirds, Jefferson Airplane, Canutit, etc. Ainsi se termine cette émission qui sera naturellement rediffusée samedi prochain. Je vous dis bye bye et à la semaine prochaine. Et
moi je vous dis à très bientôt sur les émissions comme d'habitude, préparées et animées par Pôle Sud.
À bientôt.
À bientôt.